Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Alors aujourd'hui, cette émission qu'on enregistre à Radio Judaïca, elle s'appelle « Fais-moi une petite place ». C'est une toute nouvelle émission qui est à l'antenne tous les mercredis matins de 11h30 à midi et sur 102.9. Et aujourd'hui, j'ai eu fait ma petite place à un observateur de la vie, un contemplatif, un regardeur. Il écoute au pied des platanes, le bruissement des feuilles, scrute l'écorce et parle à des milliers d'arbres de la ville de Shrewsbury, et il saute comme un kangourou de parc en parc. Moi, je l'appelle le docteur des arbres. C'est le pétillant Christophe Marx. Alors, docteur Vigates,
est-ce qu'il est que petit, hein? Très bien, hein? Formidable.
Tu as passé de belles vacances?
Magnifique, dans un endroit magnifique qui est l'île de Noirmoutier.
C'est une île un peu salée là-bas, je crois. Hein.
C'est assez salé, mais heureusement pour les poissons.
Alors moi, je l'appelle le docteur des arbres. Pourquoi? Parce qu'il connaît tous les arbres de la ville. Et moi, aujourd'hui, je t'ai fait une petite place avec grand plaisir, avec grand bonheur. Parle-moi de ce monde inconnu des arbres. C'est quoi un arbre, docteur?
Alors, moi je dis toujours, il faudrait que les gens s'imaginent une ville sans arbres, ils seraient bien tristes le soir. Ils ne s'en rendent pas vraiment compte, parce que chaque fois qu'on a quelque chose, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais l'arbre est vraiment très très important actuellement pour purifier l'air, pour amener de la fraîcheur, et il joue un rôle très très important aussi psychologiquement, parce que le vert des arbres est une couleur très très intéressante.
Mais d'où viennent ces arbres? À ce qui paraît, ils étaient là avant les dinosaures sur notre planète?
Alors effectivement, le monde végétal était là avant le monde animal. D'ailleurs, on a par exemple des ginkgo qui sont ginkgo biloba,
qui sont en fait à la place de la République.
Absolument. Et il faut savoir que ces arbres ont participé à un concours du plus bel arbre de France.
Exactement.
Et ils ont été sélectionnés. Ouais. Ils n'ont pas remporté le prix, mais ils ont été bien classés.
On dit que c'est l'arbre aux mille écus.
Oui, l'arbre aux mille écus, parce que une fois que il prend sa parure automnale, ouais, il devient d'un jaune absolument resplendissant.
C'est un arbre extraordinaire, c'est
oui,
vrai.
Oui, et quand le soleil tape dedans, ça ressemble à des pièces d'or.
Oui, c'est exactement, tu as raison, mille écus. Ouais. Ouais, ouais. Et je crois qu'il a été là, après les gros problèmes qu'il y a eu de la planète avec le nucléaire, il a résisté à tout, en fait.
Absolument, il est très très intéressant parce qu'effectivement, il a survécu à ce ouais, drame.
Alors, comment vit un arbre? Il pousse vers la lumière? Est-ce qu'il se fait, ou, il se fait sa propre place?
Alors oui, si on part d'une petite graine, la petite graine germe, commence à monter.
Ouais, attends, j'ai une question à te poser. Oui. Mais un arbre a des racines, il ne peut pas bouger, il ne marche pas un arbre.
Alors, il se dissémine par les graines. Les graines se disséminent avec le vent, se disséminent avec les animaux, peuvent se disséminer même nous, les êtres humains, on peut être des disséminateurs. Voilà, et effectivement, cette petite plantule, quand elle part, elle prend racine dans ce sol. Alors le sol, dans les milieux urbains, c'est un peu compliqué, hein. C'est pas comme en forêt où il y a des feuilles qui se décomposent. Mais toutefois, on fait le nécessaire pour qu'ils s'en sortent et qu'ils poussent au mieux.
Et comment les arbres communiquent entre eux? Est-ce qu'ils se parlent? Est-ce qu'ils se touchent? Comment ça se passe? Raconte-moi.
Alors, il y a un botaniste, Francis Allais, qui est vraiment connu, qui est d'ailleurs celui qui a fait le radeau des cimes pour étudier un peu. Voilà. Et il a mis en évidence que certains arbres, effectivement, communiquent. Et il a pris, pour exemple, un acacia qui pousse en Afrique, qui est brouté régulièrement par des petites gazelles. Et l'arbre, pour se protéger, quand il est attaqué par ces petites gazelles, produit des toxines et les envoie dans les feuilles. Et à ce moment-là, quand la gazelle broute ses feuilles, elle arrête de les brouter parce que ça l'incommode. Et donc l'arbre qui est donc brouté communique avec les autres arbres qui commencent déjà à produire ces enzymes avant même que cette gazelle arrive. Ah, très intéressant.
C'est intéressant parce que moi, comme j'ai fait quelques Paris-Dakar en Afrique noire, j'ai vu ce que tu dis, j'en ai fait un reportage avec ces gazelles qui grimpent dans les arbres et qui broutent. C'est vrai que c'est très, très intéressant. Ouais. Alors, j'ai aussi une petite question à te poser. On parle de communication. J'ai vu, par exemple, si tu vas un peu plus loin, au Quai des Alpes, il y a des immenses platanes au port de l'eau. Et j'ai vu que là, le lierre se glisse dans le tronc d'arbre. Est-ce qu'il va pas, le lierre, il va pas l'étouffer? Ou alors le lierre lui parle? Est-ce qu'il a besoin de ce lierre, le platane?
Alors, le lierre a besoin d'un support, peu importe quel qu'il soit. Et généralement, le lierre, il ne s'installe pas sur les arbres qui sont très poussants, qui sont très foliés, parce qu'il y a une trop grosse concurrence de lumière. Donc généralement, le lierre, il s'installe généralement sur des arbres, comme on a l'habitude de dire, un peu affaiblis. Après,
Un platane, c'est strong, c'est du lourd.
Oui,
quoi.
Mais comme dit, c'est des histoires de lumière et de foliaison. Et après, le lierre est très, très, très important dans les réserves naturelles, mais aussi chez nous en ville, parce qu'il y a plein de faune, de flore qui s'installent grâce à ce lierre et la diversité est justement encouragée par cette présence de lierre.
Alors là, je t'ai appelé tout à l'heure le docteur des arbres. Parle-moi un peu ton métier d'expert. C'est quoi un expert de la ville de Strasbourg qui s'occupe de tous ces arbres? D'ailleurs, il y en a un certain nombre, des milliers.
Alors, on en a 85 000 qui sont référencés individuellement. Et puis, il y a aussi des arbres dans les réserves naturelles hein, qui, eux, sont en forêt. En tout cas, ceux que nous suivons, ce sont les arbres, effectivement, dans nos parcs et des arbres au bord de rue. Et les conditions sont pas les mêmes. Et donc, notre maire a le devoir de faire en sorte que, sécuritairement, ces arbres ne causent pas de problème, qu'il n'y ait pas de blessé et voilà.
Mais j'ai juste une petite question, je sais que tu es un expert, tu n'es pas un homme politique parce que toi tu n'as pas la langue de bois, hein. Toi tu parles, hein, on peut dire ça comme ça.
C'est le cas de dire. En tout cas, nous, notre mission avec notre équipe au sein du département arbres, c'est de vérifier tous les arbres, de le regarder sous toutes ses coutures.
Mais comment vous faites?
Alors d'abord avec les yeux. Les yeux, André, c'est hyper important. Il faut d'abord bien observer l'arbre avec les yeux. Après, on a une multitude d'appareils, on peut aller jusque de la tomographie, ce qui correspondrait à de l'échographie ou de la radiographie.
C'est comme un peu les femmes enceintes, tu veux dire, quand on regarde le petit bébé dans le ventre de la maman.
Absolument. Et là, on regarde au fait si le bois à l'intérieur est pourri ou pas.
Mais c'est possible, ça?
Ah, ça marche très, très bien.
Mais avec tes yeux, tu veux dire, tu fais ça? Non,
alors ça, c'est avec le fameux appareil qui s'appelle le tomographe.
Un ordinateur.
Oui, voilà, c'est ça. Et on a été les premiers en France à utiliser cet appareil.
Si je comprends bien, tu veux dire autour d'un platane, par exemple, tu mets une sorte de ceinture autour du nombril et...
Absolument. C'est bien ce qu'on fait, c'est qu'on met des petits capteurs qui vont envoyer des ondes sonores et à la vitesse de propagation de l'onde sonore, on va avoir un comparatif, un algorithme qui va nous dire eh, ça c'est une zone altérée, ça c'est une zone saine et ce qui nous permet de savoir si on peut conserver l'arbre ou pas.
Donc avant, et de temps en temps, il faut les couper malheureusement s'ils sont pourris de l'intérieur.
Alors, il faut bien savoir, comme tu as dit, on ne fait pas de politique aujourd'hui sur cette antenne, mais il faut bien savoir que tout est mis en œuvre pour garder les arbres le plus longtemps que possible. Ça veut aussi dire que ça a un coût, mais que la municipalité actuelle fait tout pour les garder.
Mais en fait, tous ces arbres, ils sont où? Ils sont sur les avenues, ils sont dans les parcs. Tu as combien de parcs sous tes responsabilités?
Alors, moi, je ne les ai pas sous ma responsabilité, mais je vais voir ces arbres-là. Écoutez, juste à côté, il suffit d'aller dans le parc des Comtades.
Qui est un magnifique parc.
Voilà, on a 30 platanes, une trentaine de platanes qui font plus de 45 mètres. Des gens d'autres villes, quand ils viennent à Strasbourg, ils se rendent très vite compte que ces platanes poussent très très fort chez nous parce qu'on a la nappe phréatique en Alsace, on a la nappe phréatique qui est pas loin.
Les racines sont dans l'eau.
Voilà.
Quoi.
Ils ont beaucoup plus d'eau que dans d'autres régions.
Est-ce qu'un platane peut encore grandir au-delà de 40 mètres?
Alors, on est pratiquement au bout.
Au bout du bout.
Oui, on a l'allée des platanes à l'orangerie, hein, ah, qui est magnifique, fait 45 mètres. Hein, ah, ouais. Donc, tous ces arbres, quand on les inspecte, on doit même prendre des nacelles pour pouvoir...
Je me souviens, lors d'un reportage, j'étais avec toi sur une nacelle ouais. Et j'avais un peu le hembouleuse, comme on dit en alsacien. J'avais un peu les
oui,
les gens qui
l'appréhension de la hauteur.
C'était
absolument.
Tout en haut, sur la canopée, ouais, là, c'était ouais, magnifique. Ouais, quoi, ouais. Ouais.
On survole, du coup, au-dessus des arbres et du coup, on voit aussi tous les bâtiments. Enfin, c'est très intéressant ah, aussi ouais. de voir
et,
tout ça.
Est-ce qu'on peut dire que Strasbourg, c'est la grande ville des arbres? Il y a plus d'arbres à Strasbourg que dans les autres villes en France?
Alors, il y a des statistiques qui sont faites. En tout cas, à Strasbourg, on est bien pourvu au niveau du nombre d'arbres. D'ailleurs, il y a une vraie politique de planter encore plus, hein, parce qu'on connaît maintenant tous les bienfaits des arbres. On plante 1000 arbres en plus par rapport à tout ce qu'on faisait déjà actuellement. Donc ça, c'est
par an, 1000 arbres en plus?
1000 arbres par an. En plus de tout ce qu'on faisait déjà.
Mais il y a encore de la place pour mettre 1000 arbres.
Et oui, donc on a des gens qui étudient les endroits où on peut planter. Il y a des gens qui regardent même dans certaines rues, il n'y a pas d'arbres, si on peut en planter. Mais ça nécessite beaucoup d'aménagement. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine.
Moi, docteur, ce qui me désole un peu, c'est qu'en fait, dans notre ville, effectivement, on parle maintenant de la ville de Strasbourg, il y a des parcs comme les Comtades, on parle du parc qui est juste à côté de là où on enregistre, il y a aussi la Citadelle, il y a plein d'autres. Pourquoi on ne construit pas d'autres parcs? Pourquoi on n'en fait pas d'autres?
Alors, le dernier parc qui a été créé, c'est le parc du Heiritz, hein, c'est une ancienne friche industrielle qui a été aménagée en partie, qui a été dépolluée aussi, hein, c'est pas toujours évident. Et après, le problème est bien sûr le problème du foncier, où on pense d'abord peut-être à loger les gens. Voilà. Mais ceci dit, il y a la Starlette, là, au port du Rhin, là, site de
Charbonnat. Oui, j'ai vu ça.
À la fois on construit et à la fois on plante. Donc,
docteur, tu me parles un instant pour loger des gens, mais les oiseaux aussi, les oiseaux ont besoin d'avoir un habitat.
Ah oui, alors bah justement, dans les platanes du parc des Comtades, juste à côté, on a des trous qui ont été faits par des pivers. Et il faut savoir que ces trous sont habités par les chauves-souris qui jouent un énorme rôle pour débarrasser des insectes, des moustiques et tout ça. Donc, on a des vrais HLM pour nos chauves-souris.
Joli, dans ces platanes qui sont là juste à côté.
Dans ces platanes juste à côté.
Ah ouais, mais tu les as vus, ça? T'as vu qu'il y a
on a même déjà... Donc, quand on inspecte, on rentre une petite canne à l'intérieur de ces orifices et à ce moment-là, parfois, on dérange un peu les chauves-souris et ça nous est déjà arrivé qu'il y ait des chauves-souris qui soient sorties et on a crié très très fort parce qu'on a pris peur, même si ce n'est pas dangereux.
Mais on entend souvent les corneilles aussi. Hein, au-dessus, il y a un vol de... Tu as l'impression que c'est du Hitchcock à côté.
Ah
là,
oui, alors ça fait un peu peur par rapport à justement ce film que tu viens. Ouais. Mais bon, après, aujourd'hui, on a des gens du CNRS qui travaillent pour les éloigner parce que bien souvent, les gens se plaignent un peu du bruit qu'occasionne, du bruit et aussi des fientes. Hein,
c'est la nature, c'est la vie quand même.
C'est la nature et croyez-moi, l'équipe actuelle en place, elle fait tout pour tout le monde à sa place au fait.
C'est comme certaines personnes qui vont à la campagne et qui sont dérangées par les cloches de l'église et par le coq le matin, qui font des procès au maire, ainsi de suite.
C'est ça.
Incroyable.
Le monde est fou.
Des fois, c'est peut-être aussi la chaleur qui les rend fous. Ouais. Je crois qu'on va écouter avec Robin derrière sa console une petite musiquette. Je crois que c'est le Requiem de Gabriel Fauré que moi j'adore et ça me donne aussi la chair de poule, autant que toi quand tu me parles des arbres. Allez Robin, on y va. coupé, c'est beau, hein, le Requiem de Gabriel Fauré. On parle beaucoup de Mozart, hein, de ses Requiem, mais pour moi, Fauré, la voix de ses enfants, c'est comme un arbre, les arbres qui bruissent, tu vois, c'est beau. Hein,
c'est d'une vraie délicatesse, en tout
délicatesse
cas.
Délicatesse, gut gesagt, tu as bien dit ça. Et tu sais, j'ai une petite histoire par rapport à ce plus beau platane de la ville de Strasbourg, qui est de 1670, je crois, qui est à côté du petit Bois Vert, on peut dire le nom du restaurant, hein, quand
sûr.
Tu descends. Et là, cet arbre, il est majestueux, il est vieux, il est très très vieux.
Alors, on le date effectivement de plus de 300 ans, mais est-ce que c'est l'arbre qui a été planté il y a 300 ans ou est-ce qu'il a été renouvelé entre-temps ? Peut-être que ce n'est pas forcément celui qui a été planté il y a 300 ans, mais peu importe. Celui qui aujourd'hui est en place, il est absolument magnifique. En plus, il a été taillé un peu comme un plateau, à peu près à 3 mètres de haut.
Ouais.
Et il faut savoir que ça a été fait par l'homme pour mettre une petite estrade en hauteur. Et il faut savoir que les musiciens jouaient sur cette estrade et que les gens dansaient et passaient de très bons moments sous ce platane. Ce qui est bien aussi, c'est de mettre de la vie en dessous d'un platane comme ça, que l'être humain soit en symbiose un peu avec l'arbre.
Et ça, c'est juste ce que tu dis, c'est vrai, ça, c'est pas... C'est
ah
pas,
non, c'est pas du tout...
C'est vraiment
non,
vrai.
C'est
je l'ai souvent entendu aussi. C'est vrai.
Alors,
que c'est...
j'étais pas là. André, soyons honnêtes, mais bon, voilà.
Mais docteur, dormir au pied d'un arbre ou danser avec sa chérie auprès d'un arbre, c'est quand même autour d'un arbre, c'est quand même génial, non ?
Oui, il y en a même qui demandent en mariage leur femme sous un arbre.
Sous un arbre, ah, c'est beau ça, c'est joli ça. Et alors cet arbre, est-ce qu'il est sain ? Il est encore en bonne forme ?
Alors cet arbre-là, et bien sûr qu'il a des problèmes parce que vu son âge, il a aujourd'hui ce qu'on appelle un bois de cœur qui est altéré. Mais c'est un arbre qui est suivi chaque année telle manière à ce qu'on puisse assurer la sécurité, parce qu'il y a quand même une terrasse, comme tu le dis si bien,
vrai,
André.
C'est vrai.
Mais on le suit on le suit bien.
Moi, j'ai une belle petite anecdote par rapport à cet arbre. J'écoute beaucoup la radio, je suis un fan de radio et Robin le sait, derrière son pupitre. J'ai entendu à France Inter Stéphane Eicher qui un jour disait, moi, quand on lui a posé la question, c'est quoi vos rêves ? Vous auriez envie de faire quoi aujourd'hui ? Alors il a dit, moi j'aimerais aujourd'hui partir à Strasbourg en TGV, aller vers ce vieux platane qui est en bas à côté des ponts couverts, emmener mon magnétophone et enregistrer le bruit des feuilles. Et moi, j'ai trouvé ça très touchant. Et tu vois, Stéphane Eicher, qui est pour moi un des grands musiciens que j'adore, et dire ça de la ville de Strasbourg, ça a été pour moi quelque chose d'extraordinaire, quoi, tu vois.
Ah oui, c'est vraiment sympa, tous ces artistes qui
s'inspirent de la vie, qui s'inspirent d'un
c'est
arbre pour en, faire un, pour en faire de la musique. Et c'est ce qu'il fait, Stéphane Eicher. Alors, moi, j'ai une autre petite question à te poser, docteur. Pas très loin d'ici, de cette place, de ce parc des Comtades. Si tu fais 180 km, tu vas dans le Bad Württemberg. Tu es au Kaiserstuhl, en Allemagne, chez nos frères allemands.
Ah, oui.
Et là-bas, ils ont un musée à ciel ouvert où depuis une centaine d'années, sinon plus, ils plantent des arbres sur des hectares et des hectares. Il y a des séquoias qui viennent de Californie, il y a des arbres qui viennent de toute l'Europe, du monde entier, et c'est un parc ouvert. Tu as déjà été te promener là-bas ?
Alors, j'ai jamais été là-bas, mais néanmoins, nous, on s'inspire aujourd'hui beaucoup, dans le cadre de nos replantations d'arbres, de faire venir aussi des espèces un peu méditerranéennes, qu'avec ce réchauffement climatique, il faut qu'on ait des arbres qui, demain, puissent résister à ce réchauffement qui est quand même rapide. L'arbre sait s'adapter. Mais sauf que là, on est vraiment dans une période où tout va très vite.
Cet été, c'était horrible. Hein. On avait des températures dans les appartements. Alors j'imagine les arbres, comme ils doivent souffrir. Ouais. Comment il fait l'arbre pour se protéger, se préserver ?
Eh bien, l'arbre est en capacité de transpirer comme nous, les êtres humains.
Ah bon ?
Et cette transpiration va provoquer un rafraîchissement. Et ce rafraîchissement, il est très important pour l'arbre. Non seulement il est important pour l'arbre, mais il est important pour l'être humain. Moi, je dis toujours, un arbre, ce n'est pas juste un parasol. Un parasol, quand on se met sous un parasol quand il fait chaud, il fait quand même encore chaud, un peu moins chaud, certes, mais voilà. Mais si on se met sous un arbre, on bénéficie de cette évapotranspiration, comme on l'appelle, et ça va rafraîchir l'air. Et il y a d'ailleurs une étude qui est faite actuellement, une équipe pluridisciplinaire avec l'INSA de Strasbourg, avec les instituts de recherche, sur le pouvoir rafraîchissant des arbres. Parce qu'on a ce sentiment de rafraîchissement, certes, mais il faut aussi de la recherche fondamentale qui puisse le prouver. Et là, actuellement, la ville est partenaire sur ce projet qui est un très très beau projet, qui s'appelle le projet Cool Trees.
Ah, c'est joli, ouais. Mais c'est vrai que se reposer sous un arbre, de lire un livre sous un arbre, moi, au bout de je lis 15 pages, je m'endors, quoi. Je ronfle tellement c'est beau, c'est serein, on se sent bien, on est heureux, quoi, tu vois.
Comme tu dis, André, les gens se sont vraiment beaucoup, ils sont beaucoup promenés dans nos parcs et cet été, tout simplement parce que c'est là qu'ils se sentaient le mieux, parce que dans leur logement, il faisait tellement chaud. Oui. Voilà. Et ça, c'est un signe naturel.
C'est un signe
l'être
de la
humain
vie.
N'est
moi,
pas bête.
Moi qui habite pas loin du parc de l'Orangerie, je vois tout le temps des gens s'amuser, des familles entières qui sont sur des nappes, qui jouent, qui font des pique-niques et tout.
Oui,
je trouve ça vraiment très, très agréable et bénéfique pour la ville, quoi. C'est sympa de, que les gens restent là et profitent de tout
et
ça.
Et peuvent y aller en vélo, au lieu de prendre la voiture.
Moi, je suis venu à bicyclette ici.
Mais qui connaît pas ta bicyclette, André?
tu la connais, mon vélo, couleur l'herbe là-dessus.
Magnifique.
L'herbe là-dessus. Tu te sens bien derrière le micro, là?
Eh bien, c'est un peu une première, ou c'est une première.
Mais pour moi aussi. Hein, pour moi aussi.
Mais ils sont tellement sympas sur Radio Judaïque.
Et t'es à l'aise, là? T'es à l'aise?
Ouais. Ça va. J'essaye de faire au mieux.
Je te mets à l'aise.
Oui, André, il n'y a pas mieux que André.
Oh, tu exagères un peu, ouais. Alors dis-moi un petit peu, est-ce que les arbres n'ont pas peur d'un certain fantôme qui est le bûcheron? Parce que moi, je trouve que le bûcheron, c'est un guillotineur, quoi. Ah. Il coupe les arbres.
Ah, alors, effectivement, on a des forêts d'exploitation. Exploitation, ça veut bel et bien dire, il nous faut du bois pour construire nos charpentes, pour refaire Notre-Dame, pour... voilà. Donc, il y a... Mais je trouve que c'est un but noble de l'arbre que de terminer sur une belle charpente, dans une belle maison, où il apportera...
J'imagine quand l'arbre devient une table de nuit ou un lit, et un jeune couple l'achète, il n'est pas tranquille. Hein.
En tout cas, moi, je n'ai jamais vu trembler un arbre avant qu'on l'abatte,
D'accord. Ouais. Et une autre petite question, tu sais que nos voisins suisses, par exemple, qui sont des fois un petit peu, je tarbouillais, mais on ne va pas dire ça des Suisses, mais je sais que chaque Suisse s'occupe de son propre arbre.
Oui.
Est-ce que ça, ce n'est pas une solution pour les arbres, que les gens, les citadins, les gens devant leur maison, le soignent, lui donnent de l'eau
Alors, il y a déjà une campagne qui a été lancée, justement, pour les gens qui habitent dans les rues, pour planter des petites fleurs au pied des arbres. Donc ça, c'est quelque chose. Après, il y a aussi des membres bienfaiteurs qui plantent. Voilà. Ok, d'accord. Excuse-moi, André, j'étais juste en train de vous voir communiquer.
Je t'ai posé la question des bûcherons, donc on a fait ça. Attends, coupe juste un peu, j'ai regardé.
On peut faire le Anne Frank?
Ouais. Alors attends, j'ai juste une petite question encore. Comment chaque personne... Ça, je l'ai posé. Ah oui, on va parler de Anne Frank.
Ouais, je pense que ce serait sympa. Là, okay, c'est... Voilà, vas-y. Je pense que...
Alors, il y a une petite anecdote sympa aussi. Tu m'avais parlé d'un marronnier qu'une écrivaine Anne Frank avait écrit d'un arbre qu'elle ne connaissait pas à Amsterdam. Et tu es allé le visiter à Amsterdam.
Alors oui, l'association de la protection du marronnier d'Anne Frank, donc à Amsterdam.
Qui est Anne Frank, une écrivaine?
Ah, c'est une écrivaine qui a écrit. Et au fait, quand elle a écrit un de ses romans, elle avait vu direct sur ce marronnier.
Qu'elle ne connaissait pas.
En tout cas, ce marronnier était en place pendant qu'elle faisait cette écriture de alors je crois que c'est un roman, hein, je fais très très
attention. Oui, c'est un roman.
Et ça l'a énormément... Dans sa petite loge de voir cet arbre, ça lui a ramené des bienfaits. Voilà. Et dans ce cadre-là, ce marronnier, l'association de la protection, nous a demandé d'inspecter cet arbre-là. Et j'avais fait partie d'une équipe pluridisciplinaire européenne où j'ai pu participer. Et c'était un moment fort.
Alors dis-moi, je crois que ça se termine tout doucement notre émission. On a bien papoté. Est-ce qu'on est heureux quand on s'occupe des arbres?
Mais oui, c'est évident, s'occuper du vivant, vivant végétal ou d'ailleurs, voilà, c'est... on est récompensé si on s'occupe bien des arbres.
Hein? Est-ce que des fois, ils te racontent une histoire?
Alors ça, je dirais, je suis très attentif à l'arbre. Effectivement, j'écoute les bruissements. Est-ce qu'il me parle ? J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que si on s'en occupe bien, il nous le restitue. Et ça, je trouve que c'est sympa. C'est un vrai échange.
C'est un échange, j'allais te le dire. Ouais. Et moi aussi, je vais te faire un petit échange. Je vais t'offrir un livre des éditions du Cygne. Et ça parle aussi d'arbres et de la vie. Voilà, je t'offre ça, je vais te le dédicacer. Voilà, je crois que c'est la fin de l'émission. Hein. Robin me fait signe derrière son pupitre. On se revoit la semaine prochaine à la même heure. Mais je n'aurai pas le même invité, j'aurai un autre invité. Allez, on coupe. Générique de fin. Salut Robin.
Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur, pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.